On est ensemble jusqu'à 13h30 en direct, effectivement, de la Berlinale. Aujourd'hui, émission spéciale. Merci à tous d'être avec nous.
If we are not humans, who the hell are we then?
Mais oui, si nous ne sommes pas des humains, mais diables, qui sommes-nous alors hein? Cette interpellation du Finlandais à qui Koris Maki s'est imposé comme le fil rouge de cette 67e Berlinale. Chacun, en fonction de son histoire, de sa culture, de son idée du cinéma, chacun à leur manière, les cinéastes invités de cette 67e édition, toutes sélections confondues, ont tenté de répondre à cette question. Il y a quelques instants, dans la première partie de la grande table, l'actrice Yamabas et le réalisateur algérien Merzak Alouache nous disaient justement que l'humain était dans une abîme, qu'il fallait tenter de faire une forme de paix intérieure, de dresser des ponts aussi entre les deux rives de la Méditerranée, répondre à cette dualité. De retour au Festival international du film de Berlin, en direct des studios de la ZDF, à quelques mètres de la Potsdamer Platz, nous allons parler aujourd'hui, parler cinéma et idées avec nos invités, deux critiques de cinéma justement. Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant à la Berlinale pour France Culture, directeur de la publication de la revue Positif. À vos côtés, Xavier Le Herper, bonjour.
Bonjour Olivia.
Critique à la revue La Septième Obsession et au masque et la plume sur l'antenne de France Inter. Rarement le programme de la Berlinale n'aura autant reflété la situation politique actuelle, a prévenu Dieter Koslik, le directeur de ce festival aussi international qu'éclectique. Les tourments d'un monde, le nôtre, promesses déçues, inégalités criantes, violence sociale et politique, tous les ingrédients du drame semblaient réunis, mais dans la caméra des cinéastes, il est aussi question cette année d'espoir et de quête d'une vie meilleure, de changement ou de rédemption. C'est le propre d'un festival qui se veut politique, un cinéma là pour poser des questions plutôt que pour donner des réponses. Xavier Le Herper, Michel Simon, qu'est-ce qu'on interroge cette année principalement pour vous à la Berlinale, Xavier ?
Incontestablement, un monde diffracté, un monde qui s'oppose, un monde qui peine à se réunifier. Le cinéma est un merveilleux moyen, par principe, j'allais dire par essence, par nature, pour rassembler justement les gens. Dans une salle, il y a une foule internationale qui a donc une vue géopolitique différente, une expérience politique différente, et pourtant les cinémas proposent des solutions qui sont parfois peut-être naïves, mais qui ont la vertu d'être universelles. Et il y a eu de très beaux moments, justement, dans cette vision-là, parce que le cinéma, oui, c'est un art du collectif, qui s'adresse à l'individu, mais également, dans son plus grand nombre, à un public. Et cette année, même s'il n'était pas toujours réussi, les films ont tenté de dire que le monde va mal, mais si l'amertume et la lucidité étaient là, il n'y avait aucune aigreur, il y avait de l'espoir, il y avait la certitude qu'un monde est encore possible, que les constructions sont encore possibles, et ça rassure, ça rassénère.
Michel Simon, vous avez entendu ce fracas du monde, vous avez eu le sentiment de voir le monde se dérouler jusqu'à vos pieds, jusqu'à votre porte, avec le tapis rouge de cette Berlinale.
Oui, incontestablement, c'est vrai que Berlin, par rapport aux autres grands festivals, est beaucoup plus orienté, de par sa situation géographique auparavant entre l'URSS et les États-Unis, entre les deux blocs, etc. C'est toujours porté vers un cinéma politique. Mais moi, ce qui m'a frappé cette année, c'est pas tellement cet aspect politique, à part évidemment le grand film de Koris Maki, qui est peut-être le favori pour l'Ours d'Or, l'autre côté de l'espoir, qui est l'histoire d'un réfugié syrien à Helsinki, en Finlande, et de sa difficile intégration dans ce pays, mais avec un humour noir, avec une fantaisie qui ne cadre pas avec le cinéma politique habituel, heureusement. Mais par contre, moi, ce qui m'a frappé, ce sont des films qui m'ont marqué, c'est des films qui sont sur la découverte du désir, la découverte des sentiments, aussi bien dans le magnifique film hongrois de Ildikó Egyedi, Body and Soul, c'est-à-dire corps et âme, sur un couple qui découvre justement ce monde des émotions et des désirs physiques à l'intérieur des abattoirs. C'est un film très étrange, je trouve, d'une sensibilité très aiguë et très beau à voir visuellement. Ou bien le film de Volker Schlöndorff, Le retour à Montauk, d'après Max Frisch,
Volker qui est également... que nous recevrons demain dans la grande table,
voilà,
la première partie de l'émission.
Vous aurez l'occasion d'en
parler.
Et dont
le film était présenté hier à Berlin.
Ou Schlöndorff parle justement d'un homme qui vient retrouver le grand amour qu'il a connu dans sa jeunesse et avec lequel il n'est plus. Et puis également le film, très beau film également, de Hong Sang-soo, le grand cinéaste coréen, Sur la plage, seule la nuit, qui est l'histoire d'une femme qui a aussi qui a rompu avec un homme et qui se retrouve dans un sorte de no man's land ou no woman's land en attendant autre chose. Donc c'est des films plus justement plus inhabituels à Berlin. Berlin se dégage un peu du film à thèse qu'il a souvent très alourdi. Évidemment, il avait la presse pour lui parce que c'est des sujets qui permettent de parler d'autre chose que du cinéma. Et pour ceux qui aiment parler du cinéma avant tout, c'est bien de voir Berlin s'ouvrir.
Donc vous êtes plutôt content de cette 60e édition, 67e, j'arriverai pas, hein, édition Michel Simon
pour
donner un premier aperçu.
D'habitude, le cliché, c'est de dire qu'à Berlin, ce qui est intéressant, c'est dans les sections parallèles et que la compétition n'a aucun intérêt. Tous les films que je viens de citer, c'est des films de la compétition. Je trouve que pour un festival qui se voit refuser beaucoup de films parce que tout le monde veut aller à Cannes, donc ils ont beaucoup plus de difficultés que Cannes à choisir des très bons films parce qu'on ne les offre pas. Je trouve que la sélection se tient. Je dirais que la moitié de la compétition était des films de valeur.
Xavier Le Herpeur, c'est vrai qu'on est à 3 mois de Cannes avec Berlin et cette Berlinale. On a quand même un avant-goût de ce qui va se profiler aussi dans les festivals qui suivront sur le reste de l'année. Vous avez un peu ce même ressenti que Michel Simon, c'est-à-dire quand même déjà d'un festival, il faut le rappeler, qui présente près de 300 films, hein, ce qui est énorme, toutes sélections confondues, avec 18 films qui seront en compétition pour l'Ours d'Or, qui sera remis samedi par le président du jury, Paul Verhoeven, qui avait brillé l'an passé avec son L. Est-ce que vous, un festival qui fait la part belle au documentaire, à la fiction, est-ce que vous trouvez que cette année, c'est vraiment dans la compétition que ça se passe, dans ces 18 films que le plus important va être montré?
Il y a une grande différence entre Berlin et Cannes, c'est que les sélections ne sont pas concurrentielles comme à Cannes, c'est-à-dire on ne se tire pas dans les pattes pour avoir les films comme c'est le cas entre la sélection officielle à Cannes, la quinzaine des réalisateurs ou la semaine de la critique. Là, c'est une sélection cohérente, le panorama, le forum sont complémentaires, parfois synergiques avec la compétition, donc je suis entièrement d'accord avec Michel. En même temps, le bémol, c'est que juger Berlin, c'est juger la compétition et le reste aussi, c'est-à-dire que les films qui parlent du monde sont aussi en sélection parallèle, ça ne veut pas dire qu'ils sont mineurs, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être moins amples en termes de cinéma, mais qu'ils ont néanmoins quelque chose à dire. Donc on a vu des films comme Menace, qui est un film américain sur une communauté ultra-orthodoxe de Brooklyn, dans New York, qui est un film très subtil sur l'histoire d'un père qui essaye, malgré l'interdit, malgré le dogme de la Torah, de garder, de rester avec son fils alors que sa femme est morte et que normalement il lui est interdit de l'élever seul. Donc il y a eu des très jolies choses comme ceci en parallèle, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec Michel, même si effectivement il y a le désir, la politique était là dans la compétition, félicité par exemple.
Oui, bien sûr.
Film d'Alain Gomis.
Non, j'ai pas dit qu'il y a pas la politique, j'ai qu'il y a moins de politique. D'habitude, c'est un peu un cahier des charges.
Voilà. Mais quand elle y était de façon plutôt intéressante et parfois plutôt subtile, comme Félicité, qui raconte l'histoire d'une femme à Kinshasa qui a des problèmes effectivement, parce que son fils a eu un accident. Ça, j'allais dire, c'est la trame dramaturgique. Mais c'est le grand talent d'Alain Gomis, c'est-à-dire c'est d'arriver à partir d'un personnage, d'un quartier, de dire une ville, de dire un pays, de dire un continent, de dire son actualité, de dire aussi son histoire, parce que traiter de l'Afrique, c'est compliqué de la soustraire, évidemment.
Ça a été filmé à Kinshasa. Hein,
voilà, absolument,
RDC,
à Kinshasa, avec
le
beaucoup d'énergie.
Par des comédiens qui ne sont pas professionnels. Absolument. Et c'est effectivement l'histoire de cette mère courage, quelque part, cette chanteuse de bar qui
Gomis,
vient voler au secours
une
de
vie,
son fils.
Il tourne vraiment son énergie, il change même de mise en scène pour essayer de capter ça. Donc ça, c'est aussi du cinéma, pour moi, politique, au meilleur sens du terme, parce qu'à la fois, il y a effectivement une dramaturgie, un personnage très fort, et puis en même temps il y a de la politique, il y a de l'implication, et il y a surtout un point de vue, et c'est peut-être parfois ce qui a manqué dans la compétition, certains réalisateurs n'en avaient pas beaucoup.
Alors, y a-t-il un point de vue chez Ashley McKenzie? Vous le dites, tout n'est pas en compétition, mais tout est politique quelque part. On va aller mettre un pied dans une des sélections parallèles, Forum, Werewolf, Loup-garou, le premier film de la Canadienne Ashley McKenzie, présenté donc dans cette sélection. Sur une île canadienne, deux jeunes marginaux, Blake et Nessa, un couple, tentent de s'en sortir en s'inscrivant à un programme de sevrage à la méthadone. C'est un film toxique, esthétique, assez radical sur la solitude des êtres. Écoutez la réalisatrice canadienne Ashley McKenzie au micro d'Henri Leblanc.
Can you ask one of them if they live here?
Do any of you guys live here? Guys?
Do any of you kids live here in this house?
Yeah.
Is your mother home?
Yeah.
Can you go get her?
We made that, guys.
Il y a 5 ans à peu près, j'étais chez moi dans ma ville natale, dans la rue où j'ai grandi, et j'ai vu un jeune couple qui s'est dépêché, qui courait dans la rue avec une tondeuse. Le jeune homme est allé frapper à la porte de chez mon voisin et sa copine a frappé à la porte de côté. Et j'ai vu qu'ils sont entrés sans même attendre qu'on les appelle. Une querelle s'en est suivie. C'est une petite ville où tout le monde connaît tout un chacun et je ne les connaissais pas. Alors j'ai demandé à d'autres gens, est-ce que vous les connaissez? Et chacun a pu me raconter une petite histoire, qu'ils étaient drogués, qu'ils vivaient dans la forêt, plein d'histoires. Et ça a commencé à m'intéresser, je voulais savoir comment serait leur vie au quotidien. À ce moment-là, je pense que c'est le moment où j'ai décidé de faire ce film.
Dans votre film, vous montrez les corps d'une manière très originale, beaucoup de décadrage. Les corps ont une place assez inhabituelle dans le plan. Ils sont souvent coupés ou désaxés. Les visages en très gros plan isolent une bouche, des mains et deviennent presque abstraits. C'est un film très charnel pourtant. Allier inventivité plastique et réalisme quasi documentaire, est-ce que c'était une volonté de votre part dès le début ?
Yeah, I think the film definitely blends.
Le film mélange le documentaire à un certain niveau. C'est aussi le résultat du fait de filmer sur une île où il n'y a pas tellement de ressources, il n'y a pas d'acteurs professionnels, de travailler avec des amateurs en toute petite équipe, où au lieu de pouvoir construire les plans, ce que j'aimerais faire en tant que cinéaste, puisque j'aime bien contrôler toute la vision, mais je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas suffisamment d'équipe ni d'acteurs. Je ne pouvais pas contrôler les plans suffisamment. C'est pour ça que toutes ces compositions sont toutes petites, microscopiques, voire je travaille sur un tout petit canevas que j'arrive à contrôler. J'aime avoir une vision plus large, mais souvent je travaille aussi avec les acteurs dans leur vrai environnement, dans des petites scènes d'un style documentaire. Et j'aime raconter mes histoires moins avec les paroles qu'avec les images, les sons. Donc, ce qu'on voit dans le plan est très important pour moi. Quand j'ai terminé un plan, je ne veux pas y revenir plein de fois, couper, faire un gros plan, un petit plan, rapproché. Pour moi, chaque plan est une information nouvelle et quand j'en ai terminé, c'est fini, je passe à autre chose. Je me repose beaucoup sur les éléments graphiques de la narrative. Et Godard a une de mes citations préférées, « Tous les grands films de fiction tendent au documentaire comme tous les grands documentaires tendent à la fiction ». Pour moi, ça c'est tout à fait vrai. J'aime bien que les frontières soient un peu floues.
Chaque jour commence de la même manière pour Blaise et Nessa, par un passage obligé à la pharmacie pour avoir leur dose de méthadone. Ils gagnent quelques dollars en proposant aux habitants de tondre leur pelouse. La répétition du quotidien et l'absence de personnages secondaires montrent à quel point ils souffrent aussi de la solitude. Est-ce que vous souhaitiez montrer le manque d'accompagnement des pouvoirs publics dans ce long processus de sevrage à travers la solitude des personnages ?
J'essaie de pas trop y penser à un message, c'est plutôt une question que j'ai, et j'essaie d'y répondre. Parfois, je n'ai même pas de réponse très claire à la fin, mais c'est plutôt une exploration. Je pense, en faisant cela, cela me permet à moi de me focaliser sur la vie de ce couple. Je ne voulais pas être trop politique. Je pense que c'était tout naturel pour moi de travailler à un niveau microscopique, et voilà, le résultat, c'était les grandes questions, les commentaires, toutes ces choses-là qui sortaient naturellement. En rétrospective, je pense bien sûr qu'on peut le voir comme un commentaire assez clair sur nos institutions et leur implication et ces approches uniques qu'on voudrait faire appliquer à tout le monde. C'est un système qui ne fonctionnerait pas vraiment pour eux. Je n'y pense pas trop. D'une façon très consciente, souvent je pense plutôt aux éléments visuels, comme quand j'écris des scénarios ou quand je filme, quand j'essaye de les filmer à travers des cloisons, par exemple des portes en verre, pour signifier les obstructions qu'ils rencontrent toute la journée, tous les jours, ces barrières qui les empêchent d'accomplir leur vie correctement. C'est un processus que j'utilise, sur lequel je me concentre. concentre sur les personnages, les atmosphères, les émotions, sans trop penser à un message à faire passer. Mais si ça peut aussi provoquer de la réflexion, je suis heureuse.
Solitude, solidarité, hein, deux thèmes qu'on a pu retrouver aussi à travers ce festival Xavier Le Herpeur. Est-ce que ce film que vous avez vu, Werewolf, est plutôt une métaphore de la dévoration ou de l'entraide? Qui sont nos fantômes? Quel est, qui est le loup-garou de l'autre, hein? C'est un peu des questions qui sont soulevées par ce film de la jeune, très jeune réalisatrice canadienne Ashley McKenzie.
Très jeune, très douée, très rigoureuse. Les questions qui ont été posées pendant l'interview ont bien mis en avant le pouvoir, la confiance qu'elle fait à la mise en scène, et c'est indispensable parce que vous, comme vous l'avez dit, ce sont des sujets qui pourraient être abstraits, qui pourraient être théoriques, et qu'elle remplit, qu'elle nourrit vraiment d'une sensualité rageuse, charnelle, effectivement. Quels sont les démons qui nous détruisent, qui nous rendent dépendants à l'autre, à la drogue, effectivement, et parfois aux pouvoirs sociaux, parce qu'il y a ces scènes où ils vont demander, quémander de l'argent pour survivre, ils tondent les jardins, donc ils sont là toute la journée avec leur petite tondeuse, ils essayent de trouver de l'essence. Donc il y a vraiment aussi cette dépendance au monde actuel, et en même temps, c'est un film sur le jour venu, le côté urgent de se séparer peut-être de quelqu'un qu'on aime et qu'on adore, mais qui ne vous rendra peut-être jamais suffisamment l'amour que vous lui portez et le service qu'il faudrait qu'il vous rende pour pouvoir justement continuer à exister. C'est un film qui ne donne aucune leçon, qui regarde le trouble des personnages, qui ne juge pas. La fin dans les mains de quelqu'un d'autre pourrait être extrêmement moralisatrice, elle ne l'est pas du tout. Elle est porteuse d'espoir, d'un espoir désespéré, d'un espoir fort. Moi, c'est un film qui m'a énormément marqué, qui est très beau et qui est énormément porté par un sens de la mise en scène, du regard des comédiens. Et c'est indispensable qu'un metteur en scène regarde ses comédiens, parce que sinon le spectateur ne regarde pas grand-chose.
Michel Simon déplore souvent le manque de femmes, voire l'absence de femmes dans ces grandes compétitions internationales. Là, on peut dire que les femmes sont très présentes derrière la caméra, comme avec Ashley McKenzie, et devant la caméra. Un film vous a particulièrement marqué, Une femme fantastique, avec cette héroïne chilienne dont on peut peut-être parler, dire un mot.
Oui, alors effectivement, voilà un exemple de film. Bon, c'est un metteur en scène, Sébastien Lelio, chilien, qui avait été remarqué déjà, qui avait eu le prix d'interprétation féminine pour son précédent film. Ici, c'est plutôt alors un sujet, évidemment, sur un transgenre, un homme qui est devenu une femme et qui a une grande histoire d'amour, et cet homme avec qui elle est va disparaître, victime d'une crise cardiaque, enfin, il va mourir, et elle va être rejetée par la famille de cet homme. Mais on ne met pas trop en avant le fait qu'elle soit transsexuelle. C'est plutôt un film hitchcockien, c'est une descente extraordinairement maîtrisée du point de vue à la fois la bande-son, la musique, la photo, l'interprétation formidable de Daniela Vaga. Et je pense que là aussi, Berlin va vers quelque chose qui n'est pas automatiquement formaté. C'est ça qui m'a beaucoup plu. On n'est pas dans le film de Préchi Précha. De même que The Party de Sally Potter, autre réalisatrice, après la hongroise dont j'ai chanté les louanges, Sally Potter qui a commencé par des films expérimentaux assez casse-pieds, il faut le dire, il y a 20 ans. Là, c'est vraiment le sommet de la direction d'acteur à l'anglaise. C'est-à-dire, ça dure 70 minutes, c'est une partie. Là aussi, venant à Berlin, c'est assez étonnant, parce que c'est un film qui se moque des engagements féministes, qui se moque des engagements marxistes. C'est une sorte de bilan par Sally Potter de sa propre vie, mais elle n'épargne personne. Et avec des acteurs prodigieux, il y a Christine Scott Thomas, il y a Timothy Spall, qui est le grand acteur de Mike Lee, il y a Bruno Gantz, c'est une sorte de... Oui, c'est une soirée comme ça.
Patricia Clarkson qui est géniale.
Géniale. Et c'est un peu, si vous voulez, pour résumer, c'est du Pinter revu par Fedot. Voilà.
Et dans ce sillon, on peut quand
même... Pinter revu par Fedot, c'est très très drôle.
C'est très intéressant. Dans ce sillon, on peut quand même, Xavier Le Herpeur, peut-être souligner aussi la présence de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland avec son Spur, et qui est là encore un film qui met le combat d'une femme retraitée au cœur de son action dans un petit village. L'un de vous deux l'a vu ?
Nous l'avons vu tous les deux. Vous en dire du bien serait quand même mentir aux auditeurs. Mais effectivement, Agnieszka Holland, c'est une cinéaste extrêmement intéressante dans son parcours au moins, puisque oscarisée. Carrière en Berne depuis quelques années, passée à la télé, elle réalise de nombreuses séries, dont House of Cards par exemple, mais ponctuellement, et elle en parle sans problème, sans aigreur, donc le personnage est plutôt sympathique. On aurait voulu avoir de la sympathie pour ce film qui est un peu compliqué, qui est une sorte de thriller effectivement. Elle est dans un village, elle enseigne l'anglais à des enfants qui visiblement l'adorent, et puis les sommités qui sont tous des chasseurs du dimanche, du lundi, du mardi, tous les jours, disparaissent les uns après les autres. Ça aurait pu être un thriller extrêmement narquois et méchant. C'est un peu laborieux, il faut bien le dire. On voit qu'elle essaie de faire un trou des détective à la polonaise. Et ça marche pas.
Bon, Michel Simon, rapidement.
Oui, c'est-à-dire que nous avons un Hollande qui ne se représente pas, et les Polonais ont une Hollande qui, elle, se représente.
Ah, le jeu de mots de Michel.
Et c'est vrai qu'elle a connu le stalinisme, et là, elle fait dans l'écologie, finalement, tous ces chasseurs qui meurent et qui sont victimes de on ne sait quoi, au fond, c'est bien pour eux, parce qu'ils n'avaient qu'à pas tuer les bêtes. Alors, on tombe dans une sorte d'intolérance assez étonnante.
Voilà, elle se représente, et peut-être qu'elle gagnera, malgré votre côté rabat. Joie, messieurs Michel Simon de France Culture et Xavier Le Herpeur de la revue La Septième Obsession sont avec nous jusqu'à 13h30. C'est une spéciale Berlinale aujourd'hui et demain encore. Il est 13h16 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table, spéciale Berlinale. Olivia Gesbert.
So I hope that there will be diversity and that there will be perhaps anger that we expect from Berlin and from Germany in general.
Et on continue à vous emmener ailleurs, un peu partout dans le monde. C'est vraiment un festival international, ce festival du film de Berlin. Ici, nous sommes en direct des studios de la ZDF, studio ou grande table tapissée de rouge. Vous remarquez l'écho, le clin d'œil fait à ce tapis rouge qui se déroule en ce moment devant le palais de la Berlinale. Le réalisateur espagnol, Alex de la Iglesia, réalisateur de El Bar, hors compétition ici à la Berlinale, client, serveur et patron d'un petit bar d'une sorte de PMU de Madrid, sont soudain empêchés de sortir du bar sous peine de se faire tirer dessus. Alors par qui? Pourquoi? Comment échapper à leurs conditions pendant ce huis clos tout en tension dont on comprend très vite qu'il n'en restera plus qu'un? La folie, la bassesse, la solidarité de ces hommes guidés par leurs instincts et leur instinct de survie va ressurgir. C'est souvent drôle, mais aussi d'une gravité rare chez ce cinéaste tendance burlesque.
Café con leche, por favor.
¿Qué manía tiene la gente de venir a mear aquí?
¡Hijo de puta! ¡Venga,
Dios! ¡Vamos a morir todos!
Tú, desde luego, desayunando aguardiente todos los días.
Todos los días no, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Pegado un tiro a ese.
Le han dado en toda la cabeza.
Bienaventurados los muertos. Y el ángel con la espada de fuego dijo...
¡Joder! Puto colgado de los cojones.
Alex de la Iglesia, bonjour.
Buenos días o buenas noches. Bonjour.
Vous avez réalisé un thriller à huis clos, enfermé dans un bar. Les personnes présentes n'ont plus d'autre choix que de se confronter à elles-mêmes, leurs peurs, à leur désir de vie aussi. Vous dites qu'on est pris au piège, tous, quelque part, de notre propre conscience, qu'on est emprisonné dans nos désirs, dans nos attentes, plus finalement que dans le monde extérieur. Vous, quelles sont quand même vos propres angoisses, vos propres désirs et vos propres attentes d'homme, de réalisateur?
Los mismos. Decepcionar. Que mi cobardía haga daño a los demás. Y que mi soberbia me lleve a equivocarme.
Les mêmes problèmes que le reste des humains, la déception envers les autres, être un lâche envers les autres et faire du mal à cause de cette lâcheté. Et finalement, regarder les autres par-dessus l'épaule, quoi.
Et en même temps, ce qu'on voit à travers votre film, c'est que la peur peut nous rendre plus forts aussi. La peur n'est pas forcément un sentiment négatif.
Sí, claro. Totalmente de acuerdo. El problema es qué es lo que escondes en tu interior. O sea, el miedo es sencillamente una puerta abierta al interior de tu alma. Y entonces ahí está quién eres. Se ve claramente quién eres. O sea, en el momento en el que tienes que jugarte la vida, poner la vida en juego, pues se ve si eres cobarde, si eres valiente, si eres bueno, si eres malo o sencillamente si eres tonto o no. Esa es la angustia que descubres inmediatamente a todos los demás quién eres, ¿no?
Oui, totalement d'accord que la peur nous rend plus forts, mais la peur surtout montre ce que nous cachons dedans, et surtout montre par rapport à ce que cache notre âme intérieure. Quand la vie te défie, c'est quand ta nature humaine, elle apparaît le plus.
Et c'est peut-être en ça que ce film parle aussi, parce qu'on a dit que c'était un film très espagnol, mais c'est aussi en ça que ce film parle à tout le monde et reste un film universel. Justement, le directeur de la Berlinale disait qu'il avait le sentiment, pour la première fois, d'avoir fait une sélection totalement en résonance avec le bruit du monde. Alors, quel écho en donne votre film? Est-ce que ça passe justement à travers cette notion de peur?
Sí, yo creo que totalmente. O sea, lo que nos pasa ocurre en Francia, ocurre en Alemania, ocurre en Turquía, ocurre en África. O sea, vivimos con miedo a morir. Y además con la sensación de que esa muerte va a ser súbita e injusta. Y eso, claro, en lugar de construirnos como personas, nos revela como animales capaces de cometer atrocidades por ese miedo.
Ce qui nous arrive en Espagne arrive aussi en France, en Turquie, en Afrique, et c'est, on vit tous avec la peur à mourir constamment. Et c'est justement cette peur ce qui fait, c'est nous montrer vraiment comme des animaux qui veulent tout simplement survivre.
Un réalisateur qui demande du respect, exige le respect de son œuvre, est mort, avez-vous dit durant la conférence de presse après la projection du film. Pourquoi ?
Porque el respeto no se pide, el respeto se obtiene. Porque exigir respeto es como ser un profesor en una clase diciendo ¡niños, callar! Los niños no se callarán nunca, es absurdo. Lo que hay que es generar una autoridad que de alguna manera haga que los niños se callen, pero los niños obligarles a que te miren con respeto, eso es ridículo, es ridículo.
Le respect s'obtient, on ne peut pas l'exiger. C'est comme un professeur dans la classe qui exige du respect aux enfants. Donc tu dois te gagner ce respect, tu dois développer ce respect pour te le gagner.
Merci beaucoup. Alors, De la Iglesia n'aura pas gagné le respect de Michel Simon avec ce film, El Bar, un tout petit peu plus, peut-être celui de Xavier Le Herpeur. Il faut peut-être raconter, Xavier, que dans ce film, l'un des personnages, le SDF, enfermé dans le bar, dans El Bar, au bord de la folie, ce SDF cite abondamment l'Apocalypse, il a des visions prophétiques. Alex De la Iglesia lui-même dit avoir voulu montrer d'abord la descente aux enfers de ces personnages, puis leur survie au purgatoire. Ils doivent se débarrasser de leurs péchés entre les deux rives du Styx, qui sont ici les égouts de Madrid, influencés par l'assaut de John Carpenter pour le côté huis clos et par l'ange exterminateur de Bunuel pour sa mystique. Cette dimension spirituelle ou religieuse, elle est quand même assez présente ici aussi à Berlin, parce qu'on a parlé politique, mais pas que. Hein.
C'est tout à fait vrai. Alors d'abord, effectivement, le fanatisme religieux, c'est un thème que poursuit depuis vraiment ses débuts à Alex de la Iglesia. Ça le fascine, ça l'intéresse, ça l'interpelle, et malheureusement, il était très prémonitoire, parce qu'aujourd'hui encore, c'est assez fort. La question de la foi en tout cas, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit du mysticisme, c'est une question effectivement qui traverse et qui trouve pour moi son apogée, mais je crois que Michel sera d'accord avec moi, dans le grand film de James Gray, The City of Love Z, qui était présenté hors compétition, ce qui restera la grande interrogation de ce 67e festival de Berlin. Comment si, un chef-d'œuvre pareil
non, mais si, il y a une réponse.
Oui, on sait.
C'est que le film a été montré au festival de New York, voilà. Ce qui exclut la présentation dans un festival
mais
en compétition.
C'est un film ballot. Qui aurait dû être en ouverture, être mis en avant. Il a été un peu, j'allais dire, mis à l'écart en termes, j'allais dire, simplement de programmation de salle.
Et ça, c'est choquant. C'est
un
effectivement
grand
choquant.
Film sur la foi. Elle n'est pas religieuse, mais qui montre effectivement cette conviction qui vous anime toute une vie, qui va vous faire sacrifier la vôtre, mais celle aussi de vos proches. C'est un film extraordinaire qui termine sur une image inoubliable, vraiment de transe, j'allais dire, mystique. Voilà un grand film aussi sur la religion, entre guillemets, en subliminal, sur ses dangers, ses limites, et c'est intéressant de questionner aujourd'hui à la fois le politique et le religion, en tout cas le mystique, parce que malheureusement dans beaucoup de pays ils sont liés et on sait que tout cela peut engendrer de très mauvaises choses. Donc c'est aussi ça Berlin, c'est cette lucidité, cette porosité parfois à travers des documentaires inégaux, parfois à travers des fictions pas totalement bouclé, mais qui ont au moins cette valeur testimoniale.
Bon, le bronze de Michel Simon devant El Bar est en train de fondre quand vous parlez de James Gray, donc on va peut-être lui laisser nous raconter aussi en quelques mots ce film. James Gray, le réalisateur déjà de The Immigrant, The Lost City of Z, on part sur les traces avec ce film d'un officier de l'armée britannique en Amazonie hein, au début du XXe siècle. Alors on a compris l'aspect mystique, mais quel est... En gros, l'histoire de ce film, qu'est-ce que ça nous raconte ?
Oui, alors moi j'ai effectivement été enthousiasmé par ce film. Un des grands films, on peut dire probablement un des grands films de cette année, parce que je ne vais pas dire le plus beau film de cette année, puisque l'année commence à peine. Mais c'est vrai que j'aimerais que Scorsese le voie, parce que si Scorsese avait vu ce film, peut-être qu'il n'aurait pas fait les erreurs de silence, parce que les deux films peuvent se comparer. Et celui de James Gray a une énergie, une variété, une complexité, parce que le film n'est pas seulement tel qu'il est était présenté, on imaginait une sorte de Fitzcarraldo, de quête mystique. C'est pas ça. C'est un film d'abord qui met constamment en parallèle ce qui se passe en Angleterre avec la famille de cet explorateur et ce qui se passe en Amazonie. Et le thème familial, par exemple, qui est très James Gray, les enfants qui reprochent à cet homme de partir tout le temps, d'être absent, sa femme. C'est très complexe aussi sur les rapports familiaux, mais en même temps, c'est un film effectivement très inspiré, la façon de filmer la nature. C'est un renouvellement aussi pour James Gray. Aucun de ses films, à mon avis, n'est allé dans cette direction. Et ça sera un des événements du mois de mars. En tout cas, c'est certain, puisqu'il sort le 15 mars à Paris.
Il y a une autre dimension dans ce film, Elbar, dont on vient d'entendre la voix du réalisateur, Alex de la Iglesia. C'est cette notion de l'enfermement, du huis clos, et surtout cette confrontation entre les tourments intérieurs des personnages par rapport à la violence extérieure. Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve aussi dans un certain nombre de films présents ici à la Berlinale. On peut évoquer, puisqu'on en parlait dans la première partie de la Grande Table, le film Insiriated, dans lequel joue Yamabaze, que l'on vient de recevoir. Il y a quand même de la part des cinéastes aujourd'hui à la fois l'envie d'ouvrir une fenêtre sur le monde, mais aussi de se confronter à cette question des violences, Michel Simon.
Ben, il y a la violence, par exemple, dans un film autrichien de Joseph Ader. Joseph Ader est un comédien qu'on a vu récemment interpréter Stefan Zweig dans le film sur l'exil de Stefan Zweig. Il est le scénariste, le metteur en scène et l'acteur principal de ce film, qui est sur la violence dans les rapports professionnels. C'est un homme qui perd son boulot dans un journal musical. Il est un grand critique musical et on met fin à ses activités. Et cet homme va un peu péter les plombs et va vouloir se venger contre le patron de ce journal qu'il a licencié, et c'est toute la violence, mais traitée avec un humour. On a découvert avec Tony Erdmann que le cinéma germanique pouvait être aussi drôle, et pas seulement conscient des problèmes politiques, etc., mais aussi les traiter avec humour. Là, c'est un
c'était
autre...
C'était à Cannes l'an passé. Hein.
Voilà, Tony Erdmann, je crois que la plupart des auditeurs l'ont vu, mais ce film donc qui s'appelle La souris folle, est un film qui m'a beaucoup plu, même s'il est très controversé. Je crois que mon ami Xavier Lerper n'est pas d'accord avec moi, parce que je trouve qu'il introduit une dimension justement d'humour très très caustique sur les problèmes de la société d'aujourd'hui et les gens qui perdent leur travail.
Xavier Lerper, on terminera avec quand même deux derniers échos de cette Berlinale, sachant qu'on y reviendra aussi demain, cette fenêtre que le cinéma ouvre grand cette année avec des films comme Insiriated et Corps étrangers, mais aussi L'autre côté de l'espoir que vous évoquiez, du Finlandais Aki Kaurismäki, sur l'autre, ce film du Finlandais Aki Kaurismäki présenté en compétition au Festival de Berlin pour un cinéaste qui le côtoie ce festival depuis la fin des années 80, film qui sortira en France bientôt, dans un mois, film sur les errances d'un réfugié syrien à Helsinki et sa rencontre avec un Finlandais un peu bougon et méfiant qui s'ouvre petit à petit. C'est le deuxième volet de sa trilogie sur l'exil après Le Havre en 2011. Un film où on voit qu'on est tous l'étranger de quelqu'un, un cinéma quelque part pour mieux se comprendre. Demain, on entendra aussi la voix du réalisateur haïtien Raoul Peck qui tente d'éclairer notre présent en faisant ressurgir du passé deux figures importantes, deux figures qui l'ont marqué. Celle de Karl Marx d'abord à travers ce film, le jeune Karl Marx, et celle de James Baldwin pour un film Je ne suis pas votre nègre qui était présenté aussi ici à la Berlinale et que vous avez beaucoup aimé.
Deux films aussi dissemblables que possible. Le premier, c'est le film en costume avec reconstitution historique, mais la bonne idée de Raoul Peck, c'est de filmer l'énergie, le bouillonnement de cette jeunesse-là, Karl Marx en tête. L'autre, effectivement, c'est une merveille, un Nocturne Igloo d'après les textes de James Baldwin. C'est un film qui mélange des images d'archives et des images contemporaines pour dire hélas que la cause noire aux États-Unis n'a pas changé depuis 40 ans.
Merci beaucoup Xavier Lerper, merci mille fois à vous Michel Simon et à toute l'équipe de La Grande Table à Paris, Claire Maillot, Clémence Marie, Nicolas Dutemps, assisté d'Inès Magriff et d'Isotte Sicard, à Berlin, Henri Leblanc, ours d'or de la préparation de cette grande table spéciale Berlinale, et Perret Le Gras, merci à lui, à la réalisation, avec les équipes techniques de la ZDF, Uli Iber, tout d'abord, merci beaucoup à toi, et merci aussi à la Rundfunk Berlin Brandenburg qui nous a permis donc cette diffusion. Demain, portrait et rencontre avec le réalisateur du Tambour, le grand cinéaste allemand Volker Schlöndorff, pour retour à Montauk en compétition cette année à Berlin, et dans la deuxième partie de La Grande Table, à partir de 12h55, assiste-t-on à la fin de l'hospitalité allemande. Un philosophe et un écrivain seront là pour nous éclairer sur les enjeux de cette question qui sera un des enjeux phares des prochaines élections en Allemagne. Bis morgen, en direct de Berlin.